pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel. Pour votre émission du jeudi soir de 19 à 20h, c'est Judaïsme Pluriel.
Sur le Vieux Port, vous écoutez Radio JM sur 90.5.
Ce soir, Israël, nation, start-up. Avec Anita Mazor. Moins de 70 ans et un désert aride est devenu un jardin luxuriant. Une langue, l'hébreu, une expérience sociale unique au monde, le kibboutz, une agriculture adaptée florissante, une industrie performante, une place parmi les nations, une paix à construire. Et cela par le choix de la recherche et de l'innovation, par le développement du savoir et de la culture. Ce soir, nous parlerons de start-up, de jeunes pousses, car Israël est nommé la nation start-up. Mais qu'est-ce qu'une start-up ? C'est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance qui fait souvent l'objet de levées de fonds, parfois une entreprise en construction, pas encore lancée sur le marché commercial. Et ces entreprises parviennent à transformer des secteurs entiers au niveau mondial, comme nous allons d'ailleurs le voir avec notre invitée, Anita Mazor. Bonsoir Anita.
Bonsoir.
Et nous enregistrons cette émission pour nos auditeurs de Radio JM. Nous sommes heureux de t'accueillir et très honorés de ta participation à cette émission.
Merci beaucoup.
Rappelons, si cela était nécessaire, que tu es ministre d'Israël en charge des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Aquitaine et Corse. Je sais que tu es très attaché à notre belle ville de Marseille, où tu as été successivement d'ailleurs consul, puis consul général et maintenant ministre. La culture est un domaine qui t'est très cher, et avec elle, les progrès et l'innovation. Nous parlerons donc ce soir de start-up et de ce phénomène extraordinaire qui est né en Israël. Nous évoquerons ce soir quelques-unes des 7000 start-up d'Israël, pas 7000 bien sûr. Mais avant cela, nous nous demanderons comment et pourquoi ce phénomène start-up en Israël. Et je crois, il faut le dire, que c'est d'abord le choix d'un grand homme.
Oui, tout à fait. C'est ce grand homme, c'est Shimon Peres. Alors, c'est vraiment le père fondateur de l'esprit start-up, si on peut l'appeler comme ça, oui. Parce qu'il a plusieurs titres. Et ça a commencé il y a très, très, très longtemps, dans les années 50, alors qu'il était au ministère de la Défense et qu'il cherchait le moyen, justement, de faire mieux que les autres parce que Israël n'avait pas d'argent, n'avait pas de pétrole, mais avait beaucoup d'idées.
Exactement.
Alors évidemment, il s'est tourné vers la France, ce qui oblige, mais bon, mais pas seulement, mais surtout le domaine de la recherche, le domaine du développement. Et avec le temps, c'était vraiment du fait que c'était un visionnaire incomparable. C'est quelqu'un qui avait vraiment une vision extraordinaire, alors que tout le monde ne le prenait vraiment pas au sérieux. Lui, déjà, il voyait des choses qu'aucun de nous ne pouvait voir. Et à force d'insister et à force de pousser, il a réussi. Et je crois qu'on lui doit énormément, justement, à cause du fait qu'il n'a jamais, il n'a rien lâché à aucun moment. Là, il a continué à s'entêter, il a réussi. Et voilà, on est là aujourd'hui.
Je crois même que, enfin, c'est le professeur Waldem, lorsqu'on a fait disait que quand il a voyagé avec lui, il a rencontré tous les grands du monde, et notamment les grands Chinois, Américains, etc. Et que toutes ces grands pontes, si je puis dire, voulaient absolument l'écouter sur sa vision du monde, parce que pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement important.
Je crois que chez lui, c'était d'abord, il était très jeune, si vous voulez, dans la notion que il voyait les choses, il s'émerveillait de chaque chose, il était curieux de tout, il voulait tout savoir, tout apprendre. Vous savez, nous tous, on a été confrontés à un ordinateur à un certain moment de notre vie adulte. Je ne parle pas des jeunes, je parle de nous les adultes. Et on le regarde d'une manière différente que nos enfants. Alors moi, j'ai mes petits-enfants de 6 ans qui prennent mon iPhone et qui s'en servent beaucoup mieux que moi. Et parce que nous, on a une réticence, on a un genre de peur de cette technologie nouvelle, alors que lui, il n'en avait pas du tout.
Eh bien, moi, on m'a signalé qu'à 88 ans, voilà, il a ouvert
sa page Facebook. C'était au même moment qu'il a fait des chats ouverts. C'est vraiment quelqu'un qui était en avance de tous les autres. Et grâce à cette vision, grâce à cette curiosité, à cette soif d'apprendre et de voir des choses. Et je crois qu'il y a une chose qui vraiment était très, très spécifique. On dit, je ne sais pas si ça se dit en français, ça se dit en anglais, en hébreu évidemment. Il réfléchissait en dehors de la boîte, out of the box. C'est-à-dire, parce que nous, on a tous une manière quelconque de réfléchir et avec les temps, on devient plus conservateur, plus rangé dans nos pensées. Et justement, l'innovation, c'est ça, c'est réfléchir en dehors de la boîte.
Alors, il avait une phrase qui veut dire exactement ce que tu dis. Il faut aller au-delà des limites connues de l'imagination et de l'innovation. Au-delà.
Exactement.
Oui.
En dehors des sentiers battus. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français.
Et je crois d'ailleurs que pour lui, aller vers la paix, c'était travailler sur l'innovation.
Aussi, justement, parce que c'était innovateur, parce que c'était une idée où, on voulait, évidemment, Israël a toujours voulu la paix, veut toujours la paix, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Et là, il a décidé, il faut le faire, on va le faire. Alors, il avait cette idée, cette vision d'une paix qui viendra par les liens économiques, par les relations directes entre les peuples, par la vie de tous les jours. Ce n'est pas la peine d'écrire des papiers, ce n'est pas la peine de faire des conférences internationales qui n'en finissent plus. Il faut s'asseoir, il faut parler, il faut travailler ensemble, justement pour la prospérité de notre petit coin, pour notre jardin. Chacun de nous doit travailler notre jardin et il vaut mieux le faire avec les voisins.
Oui.
Parce que ça sert les deux côtés.
Et d'ailleurs, ce que tu dis est très bien illustré par le fait que dans les centres de recherche, il y a une grande collaboration entre Palestiniens et Israéliens.
Ça continue.
Et c'est vraiment des liens étroits qui se tissent.
Absolument.
Voilà. Alors, dans ce mouvement vers l'innovation, il faut le dire, il a créé quelque chose.
Alors, il a commencé avec le Centre Pérez pour la paix, qui a été créé en 1996, en fait, comme un centre, justement, dans cette lignée qui rapprochera les deux peuples, qui fera des événements, des créations, des coopérations, des collaborations dans tous les domaines. Et avec le temps et avec justement le fait qu'Israël devienne la Startup Nation et avec l'avancement, en 2016, ils ont ajouté au bâtiment déjà qui existe, un nouveau bâtiment qui a été dans la pierre, la première pierre qu'on
a posé. On a déposé la première pierre, c'est ça ?
La première pierre pour le nouveau centre Pérez pour la paix et l'innovation.
Oui, et ça s'appelle comme ça maintenant.
Et justement, l'idée est, en 2018, il va être inauguré. À la tête de ce centre, évidemment, il y a son fils, Rémi Pérez, qui est un entrepreneur lui-même. Et l'idée est vraiment de travailler ensemble et de chercher, de continuer à pousser au maximum et à l'infini, justement, les frontières de l'inconnu. Oui.
Alors justement, il a une très très belle phrase. Le défi, c'est de montrer que l'innovation n'a pas de limite, n'a pas de barrière, n'a pas de, de frontières. Oui. Elle permet le dialogue entre les nations. C'est vraiment magnifique,
c'est
ça.
Exactement ça, oui.
Eh bien voilà, c'est toute son œuvre qui va rester, puisque ce centre va ouvrir en 2018, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est prévu en 2018, en effet.
Alors voilà pour Shimon Peres et son œuvre. Mais bien sûr, la volonté de cet homme est déterminante dans le progrès et dans l'innovation. Mais il y a autre chose. Il y a pas que lui, il y a autre chose. Et je voudrais d'ailleurs qu'on essaie d'étudier tous les ingrédients qui se sont ajoutés à cette réussite dans les start-up. Et pour commencer, je voudrais que tu nous parles du tempérament israélien, parce qu'il est très particulier.
C'est normal, il est particulier, il est spécial. Plus que particulier, il est spécial. Écoute, s'il y a un peuple sur Terre qui essaye vraiment de déchiffrer les génies juifs, parce qu'évidemment, ça vient de là, c'est les Chinois. Alors eux, il faut absolument qu'ils comprennent pourquoi il y a un tel pourcentage de juifs qui sont prix Nobel, pourquoi les Israéliens sont ce qu'ils sont. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse énormément. Et chaque fois que j'ai rencontré des délégations chinoises, j'étais en Chine, j'étais à Shanghai, j'étais à Beijing, on me demandait, je disais, vous savez, le secret, il est très simple. C'est la soupe au poulet de la maman juive. Il n'y a pas de secret. C'est une chose... On ne peut pas faire autrement. Déjà, si vous voulez, on peut commencer par le Talmud. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. On met tout en question. On cherche midi à 14h. On commence à tirer le fil, à ouvrir le fil en 14, pas en 4, en 14. Sur chaque chose, il y a une question. En question, on met tout en question. On reparle. Et puis, il y a cette volonté d'écouter ce que dit l'autre. Peut-être il a une autre idée. Peut-être son idée va bien avec la mienne. Peut-être on peut faire quelque chose. Il y a cette... Rien n'est acquis. Rien est refaisable. Tout est
refaisable. Il n'y a pas de formalisme du tout.
Il n'y a pas de formalisme. Déjà, dans le cadre de la société, déjà en hébreu, vous n'avez pas « vous ». Il n'y a pas de « vouvoiement ». On se tutoie. Donc déjà, ça rend les choses plus faciles. Oui. Après, déjà dans le système d'éducation israélien aujourd'hui, parce que bon, on a évolué un peu depuis, par exemple, le fait, tu parlais de la langue hébraïque.
Oui.
Quelle idée de prendre une langue qui n'a servi jamais que pour des prières et la rendre serviable pour tous les jours. Il fallait inventer.
Ah oui, absolument.
Alors, parce que le Tanakh, le temps du Tanakh, il n'y avait pas, par exemple, de la glace. Alors, comment est-ce qu'on dit glace en public ?
Eh oui.
On invente.
Oui, microprocesseur.
Par exemple, avant ça, parce que là, on parle vraiment des choses qui... Par exemple, le mot électricité, oui.
Ah bon.
Chashmal, le mot hébraïque d'électricité, chashmal, ça existe dans la Bible. C'est dans la fameuse vision de Daniel avec les dieux, avec les anges. Alors, les anges qui sont autour de Dieu font du chashmal.
Ah oui.
Alors, c'est ça, c'est le mot qu'il a pris, Ben Yehuda, pour l'électricité. Mmh. Après, il fallait même un mot très simple comme automobile. Il fallait l'inventer en hébreu. Alors, mechonit, ça vient de mécanique. Il a trouvé. Donc, on invente. On arrive dans un désert, comme tu dis, il faut inventer. On a un désert qu'il faut fleurir, alors on invente mille et un systèmes d'irrigation jusqu'à ce qu'on tombe sur celui qui va, et c'est le goutte à goutte. Mmh. Et ainsi de suite. Maintenant, cette recherche, cet aventurisme, au fait, de rechercher, de retrouver, de trouver quelque chose qui pourra faciliter la vie, faciliter les choses. D'autant plus que Israël, si elle a inventé toutes les inventions qu'on a citées et qu'on va encore citer, sont ouvertes à tout le monde. Israël a toujours partagé. Il y a une chose qu'Israël, et ça aussi, ça vient dans le ADN juif, on partage.
Si on l'a fait, vous pouvez le faire.
Pas seulement ça, voilà, et on va vous apprendre
et
comment.
Et on va vous apprendre
et
comment.
Et ça va vous faire du bien. Et justement, on a aujourd'hui se réunis à Paris, justement, il y a une réunion pour les 60 ans de Machav, qui est le département de l'aide internationale du ministère des Affaires étrangères. Et c'est justement ce qu'on fait dans les pays de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle surtout de l'aide qu'on donne aux pays africains, où on partage justement notre connaissance avec eux. Mais ce n'est pas seulement là. C'est en Afrique, c'est en Inde, c'est en Chine. Mm-hmm. Alors, la traite électrique, ça
oui,
se dit
oui.
Bah, on la partage. Mm-hmm. Ça a été aussi, évidemment. Mm-hmm. Ça a été inventé en Israël, mais il y a des fermes entières en Chine où on traite les vaches d'une manière électrique, par mm-hmm. exemple, parce qu'il y avait un spécialiste de Machaf qui a partagé. Donc, on cherche et on encourage aussi les enfants, depuis l'âge le plus jeune, à réfléchir pour eux-mêmes, à chercher, à avoir des idées, et surtout de ne pas avoir peur de dire ce qu'ils pensent. Et si on n'a pas peur de dire ce qu'on pense, si on cherche, on crée quelque chose. Et si jamais on échoue, c'est pas grave. On a échoué, on recommence. Mm-hmm. On fera autrement. On demandera au copain, peut-être lui, il a une idée et son idée va m'aider à réussir. Si on n'a pas réussi, ça ne va pas dire qu'on ne peut pas le faire.
Exactement.
C'est ça,
et
je crois.
Ça, c'est une des grandes caractéristiques.
Après, il y a aussi cette urgence qui... On n'a pas trop le temps, parce que c'est comme ça qu'on a créé un pays quand même. On n'a pas eu trop le temps de commencer à suivre les procédures comme il faut, à aller vraiment d'après les étapes qu'il faut. Alors, on a fait des raccourcis. Parfois, on est allé, au lieu d'aller à droite, on est allé à gauche, on est venu par derrière, par devant, parce qu'on était dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on improvise. Ça aussi, ça fait partie
bien
du
sûr.
Caractère israélien. Mm-hmm. D'habitude, c'est bien. Des fois, ça ne marche pas. Mais ça donne déjà une base, ça donne une
oui.
possibilité.
Mm-hmm.
Et je crois que tout ça ensemble, en plus, quand vous avez des gens qui viennent d'au-delà des 70 cultures différentes, chacun avec sa manière de voir les choses, avec sa manière de faire les choses, et on met tout ça ensemble, ça crée quelque chose qui est complètement ouais. différent de tout le reste.
Alors j'ai vu un mot qui me plaît beaucoup, ouais. et je voudrais que tu nous expliques ce que veut dire ce mot. C'est le chutzpah.
Chutzpah. Alors ça, c'était le mot par lequel on qualifiait les Israéliens avant. Alors, chutzpah, ça vient du Yiddish d'ailleurs. Tous les bons mots et puis les meilleures blagues sont en Yiddish mm-hmm. et c'est très difficile à traduire. Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Voilà,
il y a
je dirais comme ça.
Voilà.
Ah oui, du culot. Mais ça, c'était vraiment le mot qu'on utilisait il y a quelques années. Maintenant, une fois qu'on a passé ce stade de chutzpah, parce que bon, les Israéliens qui étaient très mal polis, parce que chutzpah c'est aussi être mal poli, se sont un peu arrondis.
Arrondis.
Voilà. Il y a les pics du tzabar piquent un peu moins
oui.
de temps en temps. Alors maintenant, c'est plus chutzpah, c'est tachlès.
Ah.
Tachlès, c'est aussi un mot en yiddish, et ça veut dire, et ça, mes amis les Marseillais, vous comprendrez très bien ce que ça veut dire droit au but.
Ah oui.
On n'a pas le temps de faire des chichis, d'être gentil, de faire des salamalek, allez, tac, j'ai besoin de ça, 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 on fait ça, 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 et voilà, et on y va.
Mm.
Alors tachlès, c'est vraiment dire ce qu'on veut, et ça c'est une chose, chaque fois, chaque personne qui a affaire à un Israélien, que ce soit un entrepreneur, un start-upiste, n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas israélien, c'est la première réaction qu'il a. Ah bah, ils sont directs, on dit immédiatement ce qu'on veut, mm-hmm. on ne parle pas pendant des heures et voilà.
Ça peut choquer quelquefois quand on n'est pas habitué.
Ah oui, oui, mais ça choque.
Mais ça va plus vite et on va direct.
Exactement, on n'a pas le temps.
Voilà.
On est alors, dans l'urgence.
À côté de ce tempérament israélien, il y a un autre ingrédient qui facilite aussi beaucoup les choses, c'est l'aspect de l'entreprise. Mmh. Et dans cet aspect de l'entreprise, il y a des choses qui sont spécifiques à Israël, par exemple le capital risque.
Oui, alors, évidemment, on a des idées, mmh. beaucoup. Et quelqu'un disait que, justement, on parlait des numéros des startups qu'il y a en Israël. Je ne sais pas combien il y en a, parce que dans chaque garage, il y a deux geeks. Il y a deux jeunes de 18 ans avec des lunettes et, qui sont en train d'inventer quelque chose. Alors, allez savoir. Demain, ça va faire l'exit du siècle. On ne sait pas. Donc, il y a... Il y a la volonté de... Déjà, il y a une reconnaissance. Il y a la reconnaissance de la possibilité, de la faisabilité d'une idée, même si elle est complètement impossible, mais parce que la preuve, il y a un pays qui était complètement impossible il y a 70 ans. Et voilà, qui est
voilà,
là.
Exactement.
Donc, ça ne nous fait pas peur. Mmh. On a l'habitude. Après, c'est faisable, en fin de compte. Mmh. Et il y a la volonté d'aider, de soutenir. Et puis, puisqu'on aide et puisqu'on soutient, on fera partie de cette création de quelque chose qui était impossible, inimaginable. Et ça attire les investisseurs, si tu veux.
Bien sûr,
c'est normal.
Sûr, oui.
Donc, ça se nourrit mutuellement.
Mmh. Alors, il y a ça, et puis il y a une chose que tu as citée aussi plusieurs fois, et c'est aussi très caractéristique, c'est qu'on a une idée, on va tenter de la réaliser, et s'il y a un échec, eh bien, ce n'est pas la fin du monde.
Non, pas du tout. On recommence.
On recommence.
On recommence, on regarde, on va jusque là où on n'a pas réussi, on regarde quel a été le problème, et on essaye différemment.
Voilà. Et en même temps, on se dit que on profite de cette expérience,
ben
on la rend positive.
Voilà, voilà. Exactement. Maintenant, on sait que de cette manière-là, ce n'est pas bon. Alors, on essaie une autre manière, et une deuxième, une troisième, une... Bon, d'habitude, on a de la chance, c'est la deuxième, troisième, ça va. Ouais. Mais bon, mais on essaie.
Il y a des statistiques qui ont montré que après un premier échec, le taux de réussite est très élevé.
Ben oui, parce que déjà, il y a toute une partie des données qu'on élimine.
Exactement.
Donc
exactement.
Ça va.
Alors, on peut se demander aussi, parce que bon, tout ça, c'est très bien, mais... Pourquoi ce phénomène en Israël? Alors, y a-t-il des choses? Alors, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de nécessité. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de ci, on n'a pas de là, mais il faut le faire. Donc, on a des idées et on va les réaliser. Ça, c'en est une.
Oui, tout à fait.
Y a des gens qui disent aussi, en Israël, il y a des juifs. C'est le génie juif.
Oui, bon, là, ça, ce sont les Chinois. Oui, sûrement.
Non, mais il y a quand même des statistiques qui montrent que, écoute, 23% des prix Nobel sont israéliens, sont juifs, pardon.
Juifs.
Oui. 23% par rapport au nombre de juifs infiniment petits dans le monde. Bon, ça, on peut se poser des questions.
C'est normal, c'est la soupe de poulet de maman.
Mais voilà, exact.
Ou le couscous, bon, ça dépend d'où on vient.
Chez nous, c'est le couscous.
Voilà.
Bon, alors voilà, une des raisons possibles. Maintenant, y a-t-il une raison génétique? On ne sait pas.
Je ne sais pas si c'est... Je ne dirais pas génétique, mais je crois que... Bon, à mon avis, la toute première raison, vraiment, maintenant, sérieusement, c'est la nécessité et l'urgence.
La nécessité, absolument.
Parce que y a... Ça vient du fait qu'Israël a été créé, comme elle a été créée déjà dans la guerre, elle est née dans la guerre. Il y avait à l'époque, une fois que l'État a été créé, immédiatement après la guerre, il y a eu une vague énorme d'Aliyah à laquelle il fallait faire face, un pays qui n'avait rien, qui venait d'être créé. Et par exemple, il y avait une pénurie de nourriture. Il y avait, tout le monde avait
des tickets de...
Et il y a une chose qui a été créée, justement, inventée à ce moment-là, qui s'appelle le riz de Ben-Gourion.
Le
riz de Ben-Gourion.
Ah bon, ça, je ne connais pas.
On n'avait pas assez de riz, en gros, il n'y a pas de riz en Israël, on l'importe. C'est un genre c'est des petites pâtes... qui ont la forme de riz, mais c'est de la pâte, c'est-à-dire c'est de la farine et de l'eau. Et à un certain moment, tout le pays mangeait ça. Mmh. Et ça a exactement la forme du riz, c'est très bon, la saison a tout ce qu'on veut. Jusqu'à maintenant, on en mange en Israël. Ça s'appelle Ptitim, au fait. À l'époque, ça s'appelait les gens de Mahabarot, parce que les premiers Olim Hadashim qui sont arrivés en Israël, ils habitaient dans des tentes, en fait.
Oui.
C'était les Mahabarot des années 50. Ils mangeaient le riz de Ben-Gourion, mais nous, aujourd'hui, on l'appelle Ptitim. Et ça continuait à se manger en Israël. Alors, maintenant, c'est de petits rondes comme ça, ou autrement, entre-temps, bon, là, on développait un peu. Mais c'est ça, on invente parce qu'on n'a pas le choix. Mm-hmm. Et on a besoin de quelque chose.
Mm-hmm. Alors, j'ai lu que les sociétés technologiques et les investisseurs du monde entier se tournent vers Israël où il trouve un mélange unique d'audace, de créativité et de motivation. Voilà. Ça, je l'ai lu sur un livre qui s'appelle La Nation Startup de Dan Senor et Saül Singer, que tu dois connaître.
C'est le livre qui nous a mis sur la carte. C'est de là qu'est sortie la Startup Nation. Ouais. C'est deux messieurs-là qui ont fait vraiment... un tabac avec ce livre. Et c'est vrai, ils étaient justement les premiers qui ont réalisé qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une pépinière bizarre là aux confins de la Méditerranée où des choses bouillonnent, où des choses s'inventent. Et ils ont décidé de déchiffrer qu'est-ce qui se passe. Et voilà, ils ont fait ce livre qui est magnifique.
Très, très bien.
Qui est très bien, qui explique, qui essaye d'expliquer. C'est pas académique tout ça, c'est dans la tête des gens, mais
il prend en compte des faits et puis il essaye de faire une cohérence avec tout ça.
Absolument.
Alors tu parlais de chiffres, est-ce que tu as quelques chiffres pour nous? Non, pas trop.
On parlait pour l'économie israélienne déjà, si on peut dire.
Oui, sur l'économie, deux trois chiffres quoi, histoire de situer.
Elle se porte très bien l'économie israélienne malgré justement le fait qu'on est dans une région qui n'est pas très stable, ni politiquement, ni géopolitiquement, ni sous aucun critère. Mais elle se porte mieux que beaucoup d'autres économies en Europe. Pour donner des chiffres, par exemple, le chômage. Mm-hmm. Le chômage en Israël, parce que ça fait partie. Alors, cette année, en 2017, il est de 4,2%, alors qu'au même moment, le premier quartier de l'année 2016, il était à 4,4%.
Une belle amélioration.
Voilà, il y a une amélioration. L'inflation aussi, elle est à 0,7%. Le taux de croissance est à 4%, ce qui est énorme.
Oui, c'est énorme.
Très grand.
On aimerait bien avoir ça, nous.
Justement, le shekel est fort et stable, malgré le euro et le dollar autour. Il y en a qui disent que c'est une bulle. C'est une bulle. Parce que c'est ce qu'on a dit à l'époque, les startups justement commençaient et on a parlé, on a dit Israël, c'est le nouveau Silicon Valley. Et tout le monde a dit non, vous allez voir, ça va exploser. Eh ben non.
Pas l'impression.
Maintenant, il faut veiller, il faut être vigilant, il faut essayer de continuer, mais c'est important parce que, par exemple, si je prends ça montre aussi les changements qu'a passé la société israélienne, parce qu'un taux de chômage aussi bas relativement, ça montre qu'au fait, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, et ces gens, ça vient d'une partie à cause de la population qui a grandi, évidemment, mais aussi parce qu'il y a des couches de société qui sont réinsérées ou sont insérées pour la première fois dans le cercle du travail, par exemple les orthodoxes et les arabes, et surtout les femmes.
Oui.
Parce que et justement, c'est ça qui est très intéressant, les femmes orthodoxes qui ont toujours dû travailler parce que le mari était à la yeshiva, travaillent de plus en plus dans la technologie, et surtout les ordinateurs.
Ah oui.
Énormément. Là, elles deviennent de plus en plus spécialistes, vraiment. Mmh. Alors, jusqu'à maintenant, elles étaient professeurs, mais il y a une limite aux écoles et aux jardins d'enfants. Donc maintenant, on les trouve dans ce secteur. Mmh. Pareil que les femmes arabes, pareil. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui s'opèrent au sein de la société qui viennent justement, peut-être aussi à cause de ça, à cause de cet avancement dans la technologie, à cause de l'ouverture de la vie. Pour une et mille raisons, et c'est bien. Ça montre que c'est une société qui continue à bouger.
Alors moi, je vais te donner aussi quelques autres chiffres en revenant vers les start-up. Il y a une start-up pour 1844 habitants, c'est-à-dire que c'est énorme. On m'a donné un chiffre, un nombre de start-up d'environ 7000, ce qui est pas mal.
Ça dépend, ex, futur, en devenir.
Il y a
tout dedans.
Alors, on me dit qu'il y a davantage de sociétés, enfin j'ai lu ça sur le livre dont on a parlé, il y a davantage de sociétés israéliennes cotées au Nasdaq que de sociétés de l'ensemble dans le continent européen.
C'est quand même possible.
Bon, le capital risque est très élevé là-bas. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Le nombre de sociétés d'investissement, parce que c'est finalement le nerf de la guerre pour ces start-up. Alors, le nombre de sociétés d'investissement, 50 sociétés d'investissement. Et l'an dernier, 4,5 milliards investis dans les start-up.
Oui, mais oui parce que ça fait rêver.
Ça fait rêver.
Mais non, le rêve de chaque Israélien moyen, disons autour de 25 ans, c'est de faire son exit, d'inventer une start-up magnifique qui sera achetée par je ne sais pas quel géant à des milliards de dollars.
Oui, tout à fait.
Ah bah oui, tout le monde rêve de ça. Mais on parlait d'investissement. Alors, il y a une compagnie, il y a une venture capital.
Une venture capital,
chinoise, qui s'appelle Misma, qui est reliée au fait au président de JP Morgan, qui est là, grande société américaine en Asie, et qui vient d'investir 100 millions de dollars dans les 2015-2018 en Israël, justement dans les startups. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement l'État d'Israël, il y a des gens qui viennent de l'extérieur
pour investir
justement...
Il y a une très grande confiance, justement, c'est ça
dans les startups israéliennes. Alors, c'est pas seulement ça. Là, il y a encore une raison. Il y a un triangle, en fait. Pour avoir une bonne start-up, on a besoin d'un triangle. Tu as la recherche, le développement, tu as l'entrepreneur et tu as l'investisseur. Alors, ces trois-là, et puis il doit y avoir un contact très, très, très fort entre les trois. Alors, les universités, justement, c'est maintenant ce qu'on fait en Israël. Dans les universités, tu as les pépinières qui sont déjà liées aux industriels et aux investisseurs. Et ça vient naturellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a inventé quelque chose, qui a une bonne idée, qui a un patent, ne doit pas courir chercher quelqu'un qui lui fasse une faveur et investisse quelque chose.
C'est exactement l'inverse. Alors, je vais te raconter une histoire, mais en quelques secondes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un jour, il y a le directeur d'une grande société de cartes Visa, etc. La société PayPal, pour ne pas la nommer, très, très, très grosse société. On demande à son directeur de recevoir un jeune qui aurait fait une découverte. Mais ce directeur, il n'a pas beaucoup de temps, mais il ne peut pas refuser ça. Donc, il se dit, je vais le recevoir un petit quart d'heure. Alors, il le reçoit et il lui dit, alors, vous savez, dans le domaine de la sécurité, nous, on a trouvé quelque chose. Alors, le gros directeur, il dit, mais c'est basé sur quoi ? Et l'autre, il lui dit, vous savez, dans le monde, il y a les bons et il y a les méchants. Et nous aussi. Et nous, on sait détecter les bons et les méchants. Le directeur, il est en train d'exploser à l'intérieur. Et alors, il lui dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je vais vous donner une liste de cas, je ne sais plus combien de cas. Vous allez étudier ça et puis vous reviendrez me voir quand vous aurez des résultats. En se disant, je ne vais pas le revoir de sitôt et je me débarrasse de lui. Quelques jours après, le gars du téléphone, il dit, j'ai fini mon travail. Ah bon ? Venez me présenter votre travail. Alors, ce travail-là avait été fait par la société PayPal déjà. Le jeune, il présente le travail, il était plus performant que les autres. Le résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont racheté l'entreprise très cher.
Il a fait un exit. c'est
bien voilà. Ça. Bon, ouais. Pourquoi aussi tant de... Il faut le dire aussi, pourquoi aussi tant de start-up et de recherche, etc. C'est qu'il y a quand même en Israël une infrastructure de recherche qui est très importante. Il y a le Ternion qui est extrêmement important.
Et l'Institut Weizmann.
L'Institut Weizmann. Et puis il y a aussi 5 universités qui ont une place mondiale. Et puis en plus, il y a un lien très étroit entre la recherche et l'industrie. Ce qui fait qu'on peut tout de suite appliquer les choses.
Absolument.
Voilà, et c'est tout ça qu'il fallait dire. D'ailleurs, en 2014, l'OCDE a classé Israël le 4e pays au monde pour le taux de poursuite d'études universitaires. C'est pas rien du tout. Hein.
Ah ben ça aussi, c'est la faute de la maman juive. Ah non, mais attends, il faut absolument, mon fils, que tu aies à l'université, il te faut un diplôme. On peut pas, il faut un diplôme dans la vie.
Exactement.
Donc voilà, c'est la maman juive qui pousse.
Et puis tu as cité tout à l'heure les pépinières d'entreprise,
oui,
qui ont un grand rôle, et il y a 70 incubateurs. Les incubateurs, c'est, on aide les entreprises. 70 incubateurs pour ce petit pays, c'est absolument énorme.
Oui, c'est énorme. C'est normal.
Voilà. Eh bien, si tu veux, on va faire une petite pause musicale. Et puis, cette petite pause musicale, c'est toi qui l'as choisie.
Oui.
Alors, dis-nous.
Alors, on revient à l'ère de Pierre, là, de la pierre. C'est dans les années 60. Et c'est Uri Zohar, le fameux Uri Zohar, qui a été à l'époque vraiment l'avant-garde israélienne dans tous les domaines, y compris le cinéma. D'ailleurs, on lui a fait un très beau, bel hommage au dernier festival ici à Marseille.
Oui.
Alors, il a une chanson qui s'appelle Patentim. Patentim, c'est le cerveau juif qui nous invente des patentim. Alors, il se moque un peu de tout cette volonté d'inventer, de créer, de faire. Mais en même temps, ça montre un peu que déjà, dans les années 60, on cherchait à créer, à innover, à inventer quelque chose.
Eh bien, on va écouter.
Dinani dachat lo meshek mefupak haaretz mitbatahat vetzaadei anak ze esek yesodi maspigim sentimentim harosh hayehudi mamtzilanu patentim lemin hatanaim ve'ad hadavkaim עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו השמן המזוקק הוא על ידי מעבדן נבדק ויש בו A, B, C ו-D השמן שמן זית יהודי כן הפרוצס הוא מדויק השמן המזוקק אל קיבתך יורד חלק השמן המזוקק באופן חימי הוא מופק השמן המזוקק אמא אמא תני לי רע שמן, שמן, שמן מזוקה אכן זה פטנט חכם פטנט הפוקח עיניים כי אפשר לרמות רק בני אדם אך לא את בני המעיים לא מדינה ניתה לא משק מפופק הארץ מתפתחת צעדי ענק זה עסק יסודי מספיק עם סנטימנטים הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדווקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים כמו למשל המצאה יוצאת מן הכלל באמת כמו
Alors nous reprenons notre émission et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Judaïsme pluriel et que ce soir nous parlons de Israël Nation Startup et notre invitée est Anita Mazor. Anita, tu as choisi ce morceau,
oui.
Alors est-ce que tu veux un peu nous
oui,
en
oui,
parler
Oui, il faut, je crois qu'il faut. C'est bon, ce qu'on disait, c'est les années 60. Bon, on a passé les premières années d'après la guerre, le pays commence à un peu se stabiliser et là, ça y est, les entrepreneurs de l'époque, entre grands guillemets, commencent à inventer des choses. Alors, C'était pas toujours très net, c'était un peu à la sauvette, c'était genre là justement il parlait de par un exemple qu'il donne dans la chanson, c'est le l'huile d'olive ou l'huile raffinée ou je sais pas. Bon, évidemment c'était juste une pub pour faire boire un prendre un certain huile, mais huile de cuisine, oui.
Oui, oui.
Et mais c'est, ça se disait, c'est le dernier patent, c'est la dernière possibilité. Et le refrain dit ça y est, on a fini avec les sentiments, parce que le pays s'est construit avec les sentiments quand même. Oui. Ça y est, on est sérieux, on commence à être un pays sérieux. Il faut inventer des choses, il faut créer des choses. Donc la tête juive nous invente des patentes. Donc voilà, c'est bon.
Oui.
C'est juste un petit clin d'œil.
C'est un bon choix. C'est un bon choix. Alors écoute, on a un petit peu essayé d'analyser pourquoi ce phénomène start-up, quels sont les ingrédients qui ont favorisé, etc. etc. Je crois que maintenant, pour lesquels, bon, il nous reste peut-être une trentaine de minutes, on pourrait peut-être parler justement de ces start-up et donner quelques exemples.
Des patentim. Des patentim. On parle de patentim.
Voilà.
Okay, d'accord. Tarles. Allez.
Allez, alors, pour ma part, moi, j'ai essayé de chercher. Je voudrais quand même citer mes sources. Et puis toi, tu diras les tiennes. Moi, donc, c'est ce fameux livre dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, je tenais aussi à le préciser. Quelque chose qui m'a aussi aidé, c'est l'exposition qui a eu lieu au Centre Feleg. Mmh. Inventé pour une vie meilleure, l'innovation technique israélienne. Elle avait eu lieu du 3 mars au 9 avril 2017. Et je remercie Martine Yana parce qu'elle m'a donné quelques éléments de cette exposition qui m'ont aidé à préparer cette émission. Voilà, je te laisse la parole.
Alors là, bon, on ne va pas parler de Waze. Non, on ne parle pas de Waze. Je crois que tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde l'a sur son portable. Oui. Ça y est. Et on ne va pas parler de la clé USB aussi. On sait, tout le monde sait que c'est Israël. C'est là. Les tomates cerises aussi.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais les pépins, la pastèque sans pépins.
Et on commence à en manger beaucoup en France.
Voilà,
hein.
C'est nous aussi. Mm-hmm. Après, bon, moi, j'ai essayé vraiment de réfléchir qu'est-ce que je peux t'apporter comme idée, parce qu'on parle tellement. C'est vrai que s'il y a une chose de laquelle on parle, c'est qu'est-ce qui a été inventé dernièrement par Israël et quelles sont les startups, comme tu dis. C'est...
Attends, dans les grandes, il y en a une qu'il faut dire aussi quand même avec Wise et compagnie, c'est le problème de l'irrigation quand même.
Anetafi, voilà. nos amis qui sont pas très loin d'ailleurs, qui ont une délégation ici, une présence pas loin de Marseille.
Oui.
Et c'est d'ici qu'ils gèrent tout ce qu'ils font en Europe, par exemple. On est très fiers d'eux. Alors oui, c'est ce qu'on disait. Il faut irriguer un désert. Il faut irriguer un désert pour le faire fleurir. Alors comment on peut le faire? Alors,
quand on n'a pas beaucoup d'eau.
Hein, on cherche, on se sert des gouttes.
Oui.
Alors on irrigue goutte par goutte. Mm-hmm. Et une fois qu'on voit que ça marche, on l'exporte et on va avec partout dans le monde. Et
c'est vraiment partout dans le monde maintenant.
Et oui,
hein.
et je
crois notamment que les Chinois aussi ont...
Ben oui, tout le monde, ça y est. L'important est simplement de ne pas oublier ou de ne pas rater de poser le brevet.
Oui.
Parce qu'après, sinon tout va bien.
Ah ben, Israël, c'est un des pays qui dépose le plus de brevets aussi.
Ben
hein.
Oui, forcément.
Alors, et bien sûr, en parlant des grosses choses aussi, on peut citer le cas de Intel, hein, qui s'est installé en Israël. Et il y a eu d'ailleurs, à un moment donné, je l'ai lu dans le livre, une différence de vue entre le directeur d'Israël et le directeur aux USA, lorsque s'est posé le problème du mur de puissance électrique. On essayait d'aller de plus en plus vite, mais il fallait évacuer de l'énergie, de la chaleur, et on s'est trouvé devant un problème. Et là, les Israéliens ont pensé à une solution qui, au départ, a été rejetée par les États-Unis, mais qui, en fait, a sauvé Intel.
Eh ben voilà.
Voilà.
Non, mais il n'y a pas que Intel. Il y a la tout dernière, parce que vraiment, il faut mettre aussi un peu de nouveautés dedans. Il y a Porsche.
Porsche
qui cherche son... Voilà, où est-ce qu'ils sont. d'Allemagne qui vient s'installer en Israël, justement, d'investir quelques millions de dollars dans la voiture, un start-up qui a affaire avec la voiture. C'est-à-dire, c'est la recherche et le développement israélien qui les attire et c'est là qu'ils vont investir. Mmh. Bah, voilà, c'est bien. Il faut bien investir. On va créer une Porsche, je sais pas, qui parle seul, qui parle aux gens, je sais pas ce qu'il fait.
Ah ben maintenant on invente aussi l'Israélien. Je sais pas si on le dira parce qu'on pourra pas tout dire. Hein.
Non,
cette voiture qui a un système qui permet d'éviter les accidents, parce que il y a une, ça s'appelle
le Mobileye.
Voilà, exactement.
Oui, comme ça t'a dit, fais attention, il y a une voiture pas loin. Non, mais là pour être sérieux, c'est une minuscule caméra numérique avec des algorithmes sophistiqués. Tu vois, vraiment, il y a un jargon aussi à tout ça pour aider le conducteur à conduire de manière plus sûre. Donc c'est lié à un appareil, ça te fait des petits bruits, ça attire ton attention, donc tu fais attention. Mmh. Et c'est important, c'est bien.
Ensuite, dis-nous.
Bah écoute, comme ça en vrac.
Oui, on a du temps, en vrac,
on a parlé de Netafim. Alors, Ormat, c'est aussi quelque chose d'assez... Ce n'est pas nouveau en tout cas.
C'est quoi?
C'est une technologie qui développe, qui fabrique, qui exploite les centrales géothermiques dans le monde entier. Et ça, c'est parti aussi un peu partout. Bah, une chose qui est pour nous, les femmes, parce que les femmes doivent être belles pour les hommes, les P-Lady, c'est aussi une invention israélienne. Au début, c'était terrible, ça faisait très mal le temps qu'ils ont, voilà, le mettre en point un peu. Mobileye, on a parlé.
Pilcam.
Ah, la Pilcam. Alors, la Pilcam, c'est une toute petite gélule qu'on avale et ça, après, ça se promène dans notre estomac et ça fait des très belles photos panoramiques de ce qui se passe.
Exactement.
Non, là, sérieusement, c'est vraiment... Ça fait partie des inventions, si tu veux, dans le domaine de la médecine et de la biomédecine ou de la... qui ont vraiment, vraiment sauvé des vies, qui ont vraiment facilité la manière dont on peut détecter des maladies et forcément les soigner à temps. Par exemple, voilà, c'est toi qui as la deuxième d'exemple, de détecter les maladies dans la laine.
Ah oui, alors là, il faut en parler un petit peu. C'est une invention assez récente.
Ouais.
En fait, on a développé un petit détecteur d'haleine qui va capter ce qu'ils appellent les composants organiques et qui va être capable de déceler 40 maladies dont beaucoup de cancers différents.
Voilà.
Et ça, c'est un appareil qui coûte très, très peu cher, très facile à employer et qui va avoir un grand succès.
Voilà, ça. C'est important. Encore une fois, on revient à ce ADN juif où on invente, mais pas seulement pour soi, pour l'humanité, pour aider l'humanité, pour faire du bien. Ce sont des clichés terribles de le dire, je sais, ça sent bizarre, mais c'est vrai, la preuve.
La preuve
est là.
Ouais. Encore un autre exemple, tiens, puisqu'on parle de médecine.
Alors oui,
le caisson hyperbare.
Oui.
Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, le caisson hyperbare.
Ouais.
Mais on pensait que quand les neurones subissaient des dégénérescences, on ne pouvait plus rien faire.
Mm-hmm.
Et maintenant, on s'est aperçu qu'on peut les réactiver, même lorsqu'il y a eu des traumas qui sont vieux de 20-30 ans. On arrive à réactiver et à retrouver certaines facultés grâce aux caissons hyperbares. C'est quand même quelque chose d'important.
Oui, voilà, il y a ça. Et puis, il y a les moniteurs cardiaques aussi qui a été développé à l'université. Parce que il y a Bar-Ilan aussi, il y a Tel Aviv, il y a l'université de Tel Aviv, mais il y a aussi l'université de Bar-Ilan. Et ça aussi, c'est une technologie médicale révolutionnaire qui utilise une caméra rapide et une petite source de lumière laser pour les attaques cardiaques. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qui se font et Et on n'a même pas parlé encore de tout ce qui...
On a encore du temps.
Tout ce qui se fait dans le domaine militaire, mais ah oui, on ne peut pas en parler. Oui. Sauf
mais
que...
il y a quand même des débouchés dans le civil.
Exactement.
Après. Oui,
voilà,
oui. Mais ça, c'est dans le monde entier. Hein. Le militaire pousse le civil. Hein.
Voilà. Ça fait partie aussi. Mais moi, j'ai une autre chose. Oui. Je crois que là, c'est vraiment typique. Typique, mais très typique pour Israël. Ça s'appelle Tzomet, un institut qui s'appelle Tzomet, qui est basé à Jérusalem. Et dans cet institut, on trouve des rabbins, des chercheurs, des ingénieurs. Ils sont tous réunis afin de trouver des solutions pratiques aux problèmes du quotidien, tout en respectant, par exemple, le Shabbat.
Ah bon ?
Les jours de notre Shabbat. Alors, sans utiliser l'électricité, on a le chat en Shabbat, ça, tout le monde le connaît déjà. On le met vendredi en marche et ils éteignent, ils allument la lumière et puis d'autres choses.
Bon, il y a l'ascenseur du Shabbat aussi.
Voilà. Oui, non, mais ça, d'accord, ça c'est autre chose parce que là, on le prend parce qu'on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, dans toutes les maisons orthodoxes ou les maisons qui pratiquent le Shabbat, il y a ce chat, transformateur qui allume et éteint la lumière quand il faut. Donc, c'est vrai qu'on essaye vraiment de traiter tous les aspects de la vie comme elle se présente, de toutes les manières possibles. Et c'est bien.
Ça, c'est une avancée. Et je suis étonné que... c'est bien. Je suis étonné que les rabbins se mettent à travailler maintenant avec les...
Ben les rabbins, ils comprennent. Il y a des choses qui sont une nécessité pour la vie d'aujourd'hui. Et il faut essayer la manière... Il faut trouver la manière de les concilier avec... Concilier au bon sens du terme avec les demandes de la religion.
Oui, il y en a d'autres. Je suppose que tu as encore plein d'exemples. Moi, j'ai une liste complète et encore, elle n'est pas exhaustive. Il y en a. Ça veut dire que finalement, la recherche.
Ça n'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et je crois que c'est bien parce que c'est ça. Pour revenir à Pérez, justement, chez Shimon Pérez.
Oui.
Je crois que c'est justement ce qu'il disait aussi. Parce que quand même, il a vu tant de choses dans sa vie. Il a eu vraiment une vie extraordinaire. Il était une personne âgée, hein, on ne peut pas dire. Mais quand on lui demandait qu'est-ce qui lui donne cette vivacité, c'était ça, c'était de chercher quelque chose chaque fois, de trouver une chose qu'il n'a pas encore connue. C'est cette curiosité, c'est ça qui le gardait jeune. Et je crois que c'est ça aussi qui donne... C'est la vitalité à ce pays qui a 70 ans, c'est tout.
Et il était convaincu que justement, c'est... Et puis il semblerait que, on en a des preuves maintenant, il était convaincu que cette recherche, cette innovation qui se fait entre les différents peuples, c'est quelque chose qui nous amène vers une paix qu'on espère.
Mais c'est comme ça, c'est travailler ensemble pour l'avenir et... Pour le présent aussi, dans le présent, pour l'avenir.
Bon, je crois qu'il nous reste quelques minutes. On pourra peut-être faire une pause musicale.
ואם כבר אז לדעת שנתת הכל אם כבר לא לדעת להמשיך ולשאול אם כבר אז בכל הכוח מול העולם הזה אם כבר בדרכים שרק אתה תנתב כי בשבילים האלה יחכו התשובות אל תשכח הכל זה כמו גלגל מסתובב על כל אחד שעולה יש אחד שיורד לא להביט אחור, ללכת לא לעצור אולי
תפגוש אחת תרצה לתת לה הכל תמצא אצלה תשובות תדע את כל הסודות וכשתלכו ביחד אז הזמן יעצור זה מאחור ולדעת שתשוב הכל ישתנה ועכשיו זה הזמן אז אתה כבר לא מחכה אם כבר אז בכל הכוח מול העולם הזה אם כבר אז לדעת שנתת הכל אם כבר לא לדעת להמשיך ולשאול אל תשכח הכל זה כמו גלגל מסתובב על כל אחד שעולה יש אחד שיורד לא להביט אחור ללכת לא לעצור אולי תפגוש אחת תרצה לתת לה הכל תמצא אצלה תשובות תדע את כל הסודות וכשתלכו ביחד אז הזמן יעצור ככה הכל זה כמו גלגל מסתובב על כל אחד שעולה יש אחד שיורד לא להביט אחור ללכת לא לעצור אולי תפגוש אחת תרצה לתת לה הכל תמצא אצלה תשובות תדע את כל הסודות וכשתלכו ביחד אז הזמן יעצור
Bon, eh bien, Anita, on a passé un bon moment à parler de toutes ces start-up, et puis surtout d'analyser le pourquoi et le comment, et puis surtout de savoir vers quoi Israël va à partir avec ces start-up.
Ah bah, qu'en avant, qu'en avant. On n'a pas le choix de toute façon.
Oui, c'est exactement ça, c'est ça. La nécessité.
Voilà.
La nécessité et le talent.
Oui, le talent. Bah, c'est vrai que le talent, je crois qu'on est né avec, mais la preuve est qu'on peut aussi apprendre.
Mmh. Alors, quand on parle de nécessité, ce n'est pas qu'on veut faire un cocorico pour Israël, mais c'est Israël n'est pas le seul pays où il y a une nécessité. Et il y a certains pays qui ont connu un taux, en Afrique par exemple, un taux d'accroissement important, mais qui n'ont pas connu ce phénomène start-up. Peut-être justement parce qu'il manquait l'infrastructure pour la recherche.
C'est possible. C'est possible. Je crois que oui, ça vient de là. Ça vient surtout de là. Et puis il y a cette ouverture et cette volonté de voir comment feront les autres ailleurs aussi. Alors, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'Israéliens, par exemple, au Silicon Valley. Et parce qu'ils envoient aller voir comment font les autres. Et ils reviennent avec des idées ou alors ils emmènent leurs idées là-bas. Et c'est bien.
Honte à moi, je n'ai même pas cité la Silicon Wadi. Et pourtant.
Ah, oui.
Voilà, et ben écoute, Anita, je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
C'était très intéressant de t'écouter.
Merci.
Et puis, il y a une prochaine fois.
Amen. À bientôt.
Chers amis, bonsoir et à la semaine prochaine.
C'était Judaïsme pluriel. Chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.